Podcast.com. Essaye ça.
Le Crachoir, épisode 104, celui des nouveaux chroniqueurs qu'on va vous présenter, mais pas tout de suite, parce que avant, il faut que je salue et que je m'assure de l'état de santé de mon co-animateur. Martin, comment ça va?
Hey, ça va bien, Frank. Écoute, j'ai une espèce de motivation renouvelée, je te dirais, dans les derniers jours. J'ai eu la chance et l'opportunité d'être contributeur dans plusieurs autres podcasts qui parlent de ce qui est évident.
On se t'arrache.
Ben, je n'irai pas jusqu'à dire ça, mais il reste quand même que, écoute, je vais être bien honnête avec toi. Dans le milieu de la semaine, j'ai vécu une coupe d'affaires que j'ai jamais vécu dans ma vie. Une espèce de sentiment, là, je comprends que c'est très galvaudé là, comme expression dernièrement, mais tu sais, un gros sentiment fort de Joe de la marmotte, un peu paniquant, là, tu sais, de me dire que, hey, à la même heure, hier puis avant hier, je faisais exactement la même affaire, puis tu sais, tout ça là, je veux dire, on dirait qu'on prend beaucoup plus conscience de la routine et qu'elle nous mine un peu plus que peut-être qu'au début de cette crise là. Mais écoute, grâce au ménage du dimanche, grâce à ma démarche, grâce à tous ces cyber-concierges qui m'alimentent de choses que je peux partager, ou en tout cas duquel on peut s'amuser aux dépens de ces gens là, ben je me sens rafraîchi, renouvelé, puis écoute, prêt à la guerre sans aucun problème. Et là, n'allez pas capoter, j'ai utilisé le mot guerre de façon totalement prosaïque. Et
non, les mesures de guerre s'en viennent, c'est ça que tu veux dire. Il y a un message caché, là, puis tu fais partie là, du complot, là, puis tu es au courant. Dis-nous-les. L'armée s'en vient, hein, c'est ça?
Ah ouais, j'ai vu un gars passer devant chez nous qui ressemblait pas mal à Bill Gates.
Il y avait des culottes de jogging kaki. Sortait d'un tigre géant.
Oui, un gars qui est passé devant chez nous, qui s'en allait au Ultramar 24 heures, qui avait vraiment l'air de Bill Gates. J'ai l'impression qu'il faisait du repérage pour l'installation de taux 5G. Je capote eux, là, mais en tout cas, tu sais, c'est ça. Non, je veux pas. Je rirai pas d'eux autres en les imitant à ce point-là. Mais non, c'est ça. Fait qu'écoute, tu me demandes comment je vais te dire sans aucun doute que je vais beaucoup mieux. Ça a été plus difficile, très honnêtement, là, au début de la semaine, j'ai trouvé ça un petit peu plus tough, honnêtement.
Moi, j'ai pas de misère, moi, je trouve pas ça dur, en fait, mais je suis aussi occupé que je le suis d'habitude, mais je suis occupé avec autre chose, tu sais, c'est ce qu'on fait, pas à temps perdu, mais plutôt quand on a le temps, que des choses comme d'autres projets, moi, c'est principalement l'album de la Dubuc ces temps-ci, à place de le faire quand j'ai le temps, ben là, j'ai le temps. Fait que je peux mettre autant de temps que je veux là-dessus. Puis on fait du télétravail avec celui qui produit l'album, qui est Super Dave, qui est un technicien de son professionnel. Puis c'est lui qui fait le mixage de l'album.
Puis bien sûr, pas besoin de le dire. D'ailleurs, ben, c'est un ami de la famille. Tu sais, on dirait que tu parles de Super Dave comme si, tu sais, c'était une nouvelle...
Ah, ben, j'ai juste dit Super Dave. Je sais que je sais que les cracheurs, les abonnés du Crachoir le connaissent bien. Mais je voulais juste souligner le fait que ce gars-là a un métier, puis c'est faire du son, puis du mixage, puis on fait du télétravail. Lui, il est chez lui, puis il s'est monté un studio avec les moniteurs de référence. Moi, j'ai deux studios chez moi. On fait de l'enregistrement, puis on fait du télétravail comme ça, puis l'album avance plus qu'il a avancé dans les derniers mois. Grâce à cette... En tout cas, à cause de cette... ce confinement-là. Puis le reste du temps, ben j'essaie d'aller dehors avec mon chien. Puis
je suis pas mal occupé. Sais-tu quoi? Juste pour faire un peu de millage là, sur ce que tu viens de dire, j'espère. T'sais, bon, au moment où on enregistre, j'ai vu un paquet de mesures qui avaient été annoncées au fédéral, un 500 millions justement pour la culture et les artistes et un paquet de trucs. Évidemment, dans la foulée de toutes les annonces qui ont été faites, de cancellation d'événements culturels. Voyons, on va l'avoir, festival et tout ça. J'espère que cette crise-là va avoir pour effet de faire en sorte qu'il y a beaucoup de créateurs qui, au-delà du fait que malheureusement c'est difficile pour eux autres au niveau financier, mais tu sais qu'un paquet de projets peut-être un peu moins qui n'étaient pas sur le dessus de la pile au début de cette pandémie-là, tu sais, qui vont voir le jour. Fait que, tu sais, ça en est peut-être un. Ben, je sais que c'était déjà un projet que vous sortiez l'album, mais là, peut-être que justement, tu sais, ça va vous permettre de le faire plus rapidement, ou en tout cas de consacrer le temps nécessaire à sa sortie. Là.
Ou de mettre juste d'avoir plus de temps. Ça peut nous permettre d'avoir d'autres idées à rajouter dans les tunes, puis tu sais comment que ça se fait, là. Tu sais, après la centième écoute, il me semble que je mettrais un petit lick de guitare, là, ou bien un petit écho à ce place-là, tu sais, puis plus on met de temps là-dessus, plus ça se peaufine, mais évidemment, c'est un album, c'est comme une toile. Si on rajoute tout le temps de la peinture, on finit par gâcher le tableau. Fait que il va falloir qu'on s'arrête à un moment donné, puis qu'on le sorte, mais on est dans les derniers coups de pinceau, là.
Il me semble que j'entendrais tellement Nini chanter une toune dont le titre serait Ménage du dimanche. Ça serait tellement malade. Mais anyway, là, je vais me calmer. Là, j'ai l'air aussi freak qu'eux autres. Je vois ça.
Mais tu sais, parlant de Nini, je pense que je vais me risquer à mettre. Je mets-tu une toune pas prête de l'album?
Ben oui, ça serait que. Hey, tellement! Ben oui, quel beau teaser!
Juste pour les abonnés du Crangeoir. Puis je pense qu'on l'a déjà sorti sur le Facebook de La Dubuque. Il fallait voir ça, La Dubuque, sur Facebook. On a une page, puis si vous voulez être au courant, de savoir un peu déjà ce qu'on fait comme musique. Puis si vous aimez ça, si vous voulez être au courant de nos du contenu qu'on sort, puis surtout de l'album qui s'en vient bientôt, ben ça pourrait être une bonne idée d'aller liker ça.
Cool!
J'y vas-tu avec ça?
Ben oui, fais-nous le teaser de ça là, avant qu'on embarque dans le show, mais je tiens à préciser, par contre, moi je veux dire de quoi, parce que je peux être plus objectif que toi, parce que j'ai pas le nez dedans 24 heures sur 24, mais moi je trouve ça vraiment bon, du bon rock québécois, brut, écoute, Stéphanie ou Nini, ou peu importe, là, le sens de sa démarche est réel, est authentique. Et je pense que les gens qui vont entendre cette musique-là vont non seulement le ressentir, mais ils vont s'y associer. Puis c'est vraiment cool, là. Tu sais, je trouve, on a déjà parlé, Frank, mais tu sais, je trouve que du vrai bon rock au Québec, tu sais, du vrai bon rock, là, tu sais, c'est galvaudé à dire ça. Tu sais, le rock, c'est tellement large.
Ben, maintenant, ça veut plus rien dire au Québec, là, je veux dire.
Mais regarde, là, Pierre.
C'est du rock.
En passant. Hey, écoute, moi, j'ai vécu un moment incroyable. Tu sais, j'ai appris que, Sword va ressortir un autre album. Je sais pas si tu as déjà écouté du Sword dans le passé, là.
Non, Rick non, ça Hughes, me dit rien.
Moi, j'écoutais Solid Rock à l'époque avec Paul Sarrazin, puis tu sais, du Sword, là. Puis Rick Hughes, toute la gang, c'est le band c'est le band, d'ailleurs, je
lis trop. C'est le band à Rick Hughes?
C'est le band original, Sword, des années 80. T'sais, ces gars-là, ils ont fait la première partie de Metallica, ils ont fait la première partie de Primus, ils ont fait la première partie d'un paquet de bandes. Puis là, ben, ils sont tous partis chacun de leur bord, puis ils sont allés se ramasser plein de nouvelles influences, puis tout le kit. J'ai vraiment hâte d'entendre ça, presque autant que le premier album de la Dubuque, presque.
En tout cas, ben, je peux au moins témoigner que c'est pas une rockeuse en carton, là. C'est une vraie de vraie, là. Elle respire, rien que ça, là. Puis, pour être brut, ça va être brut parce que c'est une version, évidemment, non masterisée que je serais peut-être même pas supposé peut-être me faire chicaner de vous passer ça. Je vous le passe pareil. C'est un rough mix de la toune Vodka avec la Dubuque.
Yeah. tabous et les enculent.
On a un nouveau chroniqueur qui se joint au crachoir aussi, encore nouveau, ça fait deux cette semaine. Mais c'est pas nouveau. En fait, c'est un poulain de Martin que Martin caresse et nourrit dans son enclos depuis un certain temps. Puis il a décidé qu'il était prêt à courser dans le crachoir. Qui tu nous amènes comme ça, Martin?
Écoute, j'ai décidé de ramener une personnalité du monde du podcasting québécois dont les lettres de noblesse sont justement de traquer l'imbécilité.
Oui, vas-y.
De traquer l'innommable et le totalement insolite et incompréhensible. Et j'ai nommé, bien sûr, mon ami Simon Michaud, que vous avez connu sur un podcast, qui est toujours disponible d'ailleurs, parce que moi, j'ai l'impression que ça va devenir un cult following, même après qu'ils n'en font plus de nouveau, qui s'appelle La Chaîne débarquée, qui se spécialisait dans la recherche de nouvelles insolites mondiales.
Fait ouais, la mieux? Crème, hein, les meilleurs.
Écoute, alors, Frank, qui de mieux pouvions-nous trouver pour... Et il se sent d'ailleurs investi de cette mission. Là, il n'a pas été dur à convaincre, évidemment, parce que Simon, c'est un spécialiste, il possède des outils, un flair. Écoute, c'est un fin limier de l'imbécilité.
Non, c'est alors, l'élu. C'est l'élu dans le monde de l'insolite. Là.
C'est l'élu dans l'insolite. Et il a décidé de relever le défi, justement, de nous dégoter, en fait, des théories conspirationnistes incroyables. Et, écoute, là, il est en plein travail en ce moment, là, au moment où on enregistre, là, Frank, mais il nous a fait, j'ai fait avec lui, en fait, j'ai eu un entretien plutôt avec lui, au cours duquel il nous présente, évidemment, une première théorie. Mais pour mettre un peu la table sur la collaboration qu'on va avoir avec lui, donc, c'est un entretien que j'ai eu, qui est pas live, là, qui a été préalablement...
C'est des capsules. J'ai appelé ça une chronique, mais en fait, c'est une capsule. La capsule à Michaud, tiens.
Voilà. Donc, ce qui va arriver, puis je tiens à le préciser, vous allez l'entendre dans la capsule en question, mais je l'ai appointé officiellement un cyberconcierge exécutif. Donc, tu sais, Simon, il y a vraiment un rapport, on appelle ça en anglais un direct report, là, avec moi, relatif à la page, bien sûr, Ménage du dimanche, quoi, si vous ne l'avez pas déjà fait, on vous invite à visiter. Donc, il va on va produire avec lui des capsules qu'on va intégrer dans le crachoir, au cours desquelles moi et lui allons discuter de ces, comment dire, de ces joyaux de conspirationnistes qu'il va nous dégoter. Et ça donne ceci.
Michaud est monté dans un grand pommier. La branche a cassé. Michaud est tombé. Où donc est Michaud?
Michaud est en bas. Michaud, c'est Michaud.
Michaud est sur le dos. Oh, relève, relève, relève. Oh, relève, relève, Michaud.
Hey, Simon Michaud, comment qu'on sent sortir des boulamites? Comment ça se passait?
Ça pue, première chose. Mais j'avais pas de raton laveur qui me courait après, fait que c'est pas si mal.
Bon, ben c'est déjà ça de gagner. Écoute, Simon, dans un premier temps, étant donné que c'est une première, ben je te remercie de bien sûr de te prêter au jeu, de ressortir un peu ta chaîne débarquée, justement, pour aller nous dégoter des perles des interwebs.
Ben, moi, quand je peux collaborer avec toi, Martin, tu sais, ça me fait toujours plaisir.
Bon, ben, écoute, puis on se fera pas de cachette, là. C'est clair que j'ai tout de suite pensé à toi quand t'es venu le temps de procéder à la chasse à ces perles, justement, de l'Internet, parce que Dieu sait qu'il y en a, mais évidemment que pour ceux qui vont écouter cette chronique et qui me demandent tout le temps, ben là, Martin, t'as donc ben des nonos dans ton feed Internet. Ben, c'est ça qui arrive quand tout ce que tu fais sur ta page, c'est pas juste de montrer ton spaghetti ou ton ragoût de pâte. Fait que c'est ça que ça donne, tu sais, tu suis du monde, puis bon, c'est ça. Fait que une fois que ça, c'est réglé, ouais. Ben écoute, Simon, moi, je suis plus capable. Je me sens un peu comme quand vient le temps de Frank de présenter son mash-up. Présente-moi ta première... en fait, on va appeler ça, tu es maintenant officiellement un cyberconcierge, alors parle-moi de ta première trouvaille.
T'as besoin de te sentir dans un groupe, peu importe où.
Ouais,
si
ben
t'es tout seul puis que t'as accès à un téléphone, puis quelqu'un réussit à te planter dans la tête que c'est Bill Gates qui met des micro-puces de vaccins Illuminati dans les affaires pour te rendre,
pour te woker, pour te réveiller.
T'anti-woker, pour t'endormir.
Aussi, ouais,
pour
ouais,
t'endoctriner.
Okay. Ouais, c'est ça.
Arrache!
C'est ouais, ça que je pense. J'avoue.
Ben écoute, je vais commencer, c'est très simple. Je vais commencer avec le commencement de l'article que je vais dégoter. Voilà la vérité. Fait que là, les sheeple, les aveuglés, c'est la vérité, OK? Ceux qui écoutent, qui pensent qu'ils savent, ils savent pas. Là, ils vont savoir, OK?
Présentement, Simon, t'es un agent de vérité, toi, là.
Oui, je suis le vecteur du véricisme.
OK.
Je suis la combustion du peuple vers l'absolu savoir. C'est tout ce qui va se passer, là.
Fait que raconte-moi ça. Premièrement, c'est quoi ta source? Parce que là, on oublie trop souvent de demander c'est quoi la source de quelque chose. Oui, il faut qu'on soit, on est transparent.
100% transparent, Martin. On est là pour le peuple, pour désaveugler les gens, enlever les visières. Donc, magazine lavoixdedieu.wordpress.com. Sponsorisé par jésusvousaime.angelfire.fr. Juste la vraie presse, Carlis, c'est fini, les chipoles. OK? Pelado.
Non, mais si bon, attends un peu. Y a-tu deux mots qui fitent moins ensemble que la voix de Dieu pis WordPress?
Arrête de rire de mes arrête!
Excuse-moi.
Là, Radio-Can, c'est un aveuglement volontaire.
Aïe, aïe. Fait que c'est quoi ta nouvelle, by the way? C'est quoi ta conspiration dans ce...
Ben déjà, comme tout le monde l'a dit, Martin, ouais. Bill Gates est copropriétaire du vaccin contre le coronavirus.
Le vaccin qui n'existe pas, là.
Non, ça, tu vois, ça, c'est du trisac, ça. ça, c'est de la bullshit populiste. Non.
OK, tu me trouves démagogue en ce moment, là.
Plus, ben, un petit peu.
Plus que la voix de Dieu. .wordpress.com.
Regarde, Dieu, il publie le même livre depuis qu'il est mort. OK?
Ouais. Mais ouais, okay.
Je sais pas. Okay. Où ton livre, Martin?
OK. Fait que là, on va parler de ton livre à toi. En fait, tu dis que c'est un article qui dit, oui, qui atteste du fait que Bill Gates serait copropriétaire du virus.
Vaccin
du virus. Excuse.
Qui existe.
OK.
Bon. Le but du vaccin, 3 étapes, très simple. Micro-pousser le public pour le contrôler, comme on l'a toujours dit, conformément à l'agenda 2030 de l'ONU.
OK, c'est l'ONU, ça, qui... Hey, sérieux, ça devient... Je sais pas trop. Ben,
écoute, si tu veux rester safe, Martin, c'est pas compliqué, tu refuses tout vaccin.
OK,
c'est ça. Tu veux
rester
safe, refuse tout vaccin.
OK.
C'est tout simplement ça.
OK, écoute. Bon. Écoute, Simon, tu me rassures. T'as vraiment... t'es une lumière dans la nuit.
Ah, moi, je suis pas là pour faire peur aux gens. Je suis là pour réveiller les gens.
Ouais, ben écoute... écoute, Simon, je sais pas quoi te dire d'autre que merci. Tu sais, je pense que même après cette première chronique... dans le crachoir sous le thème du ménage du dimanche, je vais, même après l'avoir réécouté, je vais réaliser à quel point tu as été justement un agent de changement. Et,
n'oubliez pas les gens, là. Bill Gates est copropriétaire du vaccin. Chaque fois que quelqu'un reçoit le vaccin, il devient copropriétaire de votre corps. Vous êtes comme un cellulaire. Vous êtes à risque.
Écoute.
On se fait plus vacciner. Fini.
Écoute, Simon, je sais pas quoi ajouter d'autre que de te dire merci beaucoup et de poursuivre ton incessante quête à titre de... J'ai envie de te nommer, écoute, tu vas être un cyberconcierge exécutif maintenant du ménage du dimanche et écoute, tu vas être notre agent double.
Je suis à l'affût, écoute, j'ai les narines ouvertes. J'ai le nez dans le vent.
Simon Michaud, merci beaucoup, puis on te retrouve bientôt.
Restez à l'affût, les gens. La vérité vaincra toujours.
Je m'appelle Claire, j'aime nettoyer, astiquer, frotter, tout faire prier. Et je fredonne ce petit air pour me rappeler tout ce que je dois faire. Je me lave le visage et les pieds, les mains avant de manger. Je me brosse les dents, les pieds frayés. Je ferme ma chambre bien rangée. Du savon, de l'eau, du soleil, c'est parfait pour nettoyer. Comment se sent bien une fois lavé?
Suite aux nombreuses demandes qu'on a reçues par Telegram, on y va avec une chronique, une nouvelle chronique dans le crachoir, celle de Tommy Godette, la chronique TommyGodette.com. Salut Tommy!
Hey, salut tout le monde, bienvenue à cette nouvelle chronique dans le crachoir. Merci beaucoup de m'avoir invité les amis, je suis très content d'être ici, c'est pas mal grand chez vous, c'est cool.
Quand même, hein? C'est quand même assez spacieux.
Mais
c'est,
ben oui.
On a pensé à ça parce que récemment, moi, depuis le confinement, j'ai commencé à faire découvrir quelques classiques cinéma à ma blonde qui n'est pas de la même génération que moi. Puis j'ai eu le goût d'en parler au crachoir. Puis tant qu'à avoir, tu sais, dans notre entourage proche, un spécialiste du cinéma, un critique assez unique. Parce que j'aimerais ça pour ceux qui, mettons, te découvrent aujourd'hui, là, que t'expliques. Comment fonctionne ton échelle d'annotation?
Ah ben oui,
de film?
Avec plaisir. En fait, nous, à douteux.org et moi, dans la vie en général, les productions culturelles, j'ai classifié de moins 10 à 10. Dans le sens qu'au sein de cette échelle-là, il y a trois valeurs qui sont logarithmiques, t'sais, inatteignables. On ne peut pas donner plus 10 à un film parce que ça lui donnerait une valeur de réécoute parfaite, de divertissement parfait. On peut tendre vers le 10, mais on a jamais, on peut pas faire face au divertissement parfait. Sinon, il y a le 0. Le 0, il y a aucune création culturelle qui est le 0. Le 0, c'est l'absence de stimulation. C'est comme un caisson d'isolation. T'sais, c'est de la peinture qui sèche. T'sais, c'est puis même la peinture, des fois, ça peut brasser. Là, il peut arriver des affaires. Là, mais voilà, le zéro, c'est pas quelque chose qu'un film peut se rendre ou une production culturelle quelconque. Et le moins 10, qui est un petit peu celle qui est notre saveur locale, je dirais. Le moins 10, c'est que quand tu vas vers le plus 10, vers un bon film, c'est que la note que tu donnes, la valeur de divertissement retenue de la création, plus elle est grande, plus tu as été diverti de la manière que ceux qui ont fait l'œuvre voulaient te divertir. Quand tu t'éloignes du zéro en allant vers le moins 10, plus tu es diverti, mais pas nécessairement de la manière que ceux qui ont fait le film voulaient te divertir. Genre rire dans un film d'horreur ou voilà, tu sais, de rire deux autres plus qu'avec eux autres dans une comédie. Il y a toutes sortes de films. En France, ils appellent ça des nanars. Ailleurs, ils appellent ça des bad movies, so good, it's bad, tu sais, des affaires comme ça. Voilà, nous, on fait juste dire un moins 7.
Fait que moins 3, c'est plate, mais moins 8, c'est intéressant. Là.
T'as tout compris. Et d'un bord comme de l'autre, dans le fond, ça fait une cloche logarithmique statisticienne qui montre que le pic de la courbe, puis c'est en mode, c'est en site, les courbes, c'est à 5. Autant dans le plus que dans le moins. Il y a plus de films moins 5 qui se font que de films moins 6. Et il y a plus de films plus 5 qui se font que de films plus 3.
Le but, c'est pas d'aplatir la courbe, mais en fait, c'est le contraire, probablement, qui va se passer dans cette chronique-là, j'espère.
Ah, oui, ouais, peut-être. En tout cas, on va essayer de vous suggérer des affaires qui font réfléchir, parce qu'on est à l'heure du canon et du... ça se dit comment, ça, d'ailleurs? Quanon?
QAnon.
Je sais même pas c'est quoi, ça, en fait.
Regarde,
on est à cette heure-là.
Trouve un ami Facebook qui capote un peu trop sur Trump, là, puis Q. Puis fin que lire les commentaires qui vont suivre, puis le délire.
Bon, ben voilà, ouais, ça m'intéresse plus vraiment, ces affaires-là. J'ai eu ma pause platiste il y a 2-3 ans. Et,
oui,
c'est,
on s'en rappelle.
c'est pas des belles énergies qui traînent autour de ça. Puis là, en plus, je veux dire, on est comme... On savait tout le monde début mars que c'était pour durer 2-3 mois. Là, il y en a qui ont transformé Moïse, voyons chose, Legault, là, ils l'ont transformé en Dieu puis tout. Puis là, une couple de semaines plus tard, quand on, tu sais, il y a aucune nouvelle donnée. Là, tout le monde savait que c'était pour durer 2-3 mois. Chris, là, c'est rendu Satan, puis il faut sortir dehors. C'est-tu que ça me tape ses nerfs, man? Hein?
On est passé de Lego est le seul dieu et Horatio est son seul prophète à...
Hey, c'est ça. Là, tout le monde veut changer ça pour un vaudor, puis faire le party, puis c'est fini, on sort dehors. Tu sais, en tout cas, moi, ce que je fais, c'est que je suis chez nous, je stream beaucoup et j'écoute des films, et ça me fait plaisir d'utiliser la plateforme que tu me prêtes, Frank, pour proposer quelques affaires, pas piquer des verres, à tes auditeurs. Je suis très content aussi parce qu'il y en a deux, c'est deux documentaires, c'est deux affaires, selon moi, c'est primordial de voir ça dans sa vie. Il y en a un, ça s'appelle « Advertising and the End of the World ». Ce n'est qu'en anglais et c'est une lecture qui est disponible sur Vimeo. C'est bien un film, mais c'est une lecture parce que c'est un prof de communication du Michigan qui s'appelle Sut Jali qui y va d'une petite diatribe sur la manière que le système de publicité est en train de monter, de prendre le contrôle, de à quel point, mettons, l'argent se manifeste dans la vie de tous les jours au travers des marques et du reste. Il y a des mots là-dedans qui me font encore réfléchir. Donc, Advertising and the End of the World, je pense que si vous l'achetez en plus sur Vimeo, pour 5$, vous donnez 5$ à un fonds de documentaristes indépendants. Et je pense que c'est important sur la bonne information.
Est-ce que c'est fait dans le même esprit, espèce d'esprit de dérision de 99 francs?
Non, c'est juste du sérieux là. Okay, tu vas voir, c'est même moi j'ai fait écouter ça à mes parents en pesant pause puis en traduisant, puis à la fin ma mère elle a fait oh mon doux.
Pis, on s'est manipulé.
Ça y en a donné à réfléchir, c'est très dense, c'est un petit 47 minutes. Sinon ben, je passe à mon deuxième, je vais les liens fait que peut-être que tu pourrais les mettre en bas du show, voilà. Sinon l'autre c'est francophone, c'est même plus que francophone, c'est 100% québécois canadien bilingue. Ça s'appelle Le prix à payer, The Price We Pay. C'est un documentaire québécois sur, selon moi, ce qui est la plus grosse menace à laquelle notre génération, à nous, et peut-être tu sais, celle d'après certainement, les millennials et tout, vont avoir à faire face, c'est-à-dire la montée des paradis fiscaux et la désagrégation, on pourrait dire, la destruction de la classe moyenne. Le prix à payer, c'est un documentaire de 2015, je pense, c'est super actuel. C'est beaucoup aussi inspiré des écrits de Alain Deneau, qui est un philosophe québécois que j'ai eu l'honneur de recevoir sur mon podcast 70% et qui a le tour de trouver les bonnes formulations, j'ai l'impression, pour vulgariser ces idées-là qui sont vraiment... Tu sais, si, mettons, la classe moyenne pouvait se mettre autant en tabarnak après le fait qu'il y a eu les Panama Papers puis qu'il n'y a eu aucune retombée pour vrai, que tu sais, toutes les personnes riches du monde avaient de l'argent enfermé dans des paradis fiscaux. La journaliste qui a déterré ça s'est fait tuer. Voilà, Christ que c'est plate que le Canadien ne fasse pas une série. Hein? Est-ce que ça me tape c'est là, cette chicane-là? Si on mettait le tiers de nos énergies qu'on met sur le sport professionnel, on pourrait toutes les équipes pour avoir Wayne Gretzky.
Ça demande des efforts. Ça demande trop d'efforts.
Ben oui, c'est sûr. Après ça, il faut que tu t'associes à ton opinion, tandis que dehors, le coach à Montréal, tout le monde a cette opinion-là. Tu sais, c'est super important. Sinon, ben je vous laisse un lien vers Le prix à payer. Je l'ai trouvé sur YouTube. Je vous encourage fortement à donner de l'argent à n'importe quoi qui est associé à ce film-là. Fait que si jamais vous apprenez qu'il y a une manière de payer 5$ votre visionnement que vous avez eu avant, faites comme moi. Faites le petit effort. Souvent, c'est de payer PayPal, puis on va en avoir plus des documentaires de gens intelligents. Fait que sinon, Frank, je m'en vais vers quelque chose qui est un petit peu plus à la disposition de tout le monde, je dirais. C'est même, tu sais, toi, t'es barbu, puis tu fumes, puis tout. Fait que ta petite innocence d'enfant est où?
Elle est très loin. Elle est partie avec ma première cigarette à l'âge de 8 ans.
Bon, ben voilà. Ben moi, je te dis, Boy and the World, c'est un film de 2018. Oh, je me rappelle plus l'année. Mais je sais qu'il est sur Netflix présentement. Et c'est un film brésilien d'un gars qui s'appelle Ale Abreu. Je m'excuse si je dis pas son nom comme il faut. Ça s'écrit A-L-E avec des accents. Là. Bon, puis A-B-R-E-U, là, c'est des affaires portugaises. Ils sont spéciaux, eux autres. Et c'est une animation de... Il y a aucune parole de tout le film. Et c'est un petit gars qui habite en région, qui s'en va visiter la grande ville, qui rencontre le monde. Tu sais, les larmes me montent en en parlant. C'est un film excellent, c'est sublime. J'aimerais avoir des enfants juste pour pouvoir l'écouter avec. T'sais. Puis vous allez voir, les tunes sont belles, puis c'est merveilleux à quel point c'est super compliqué de faire de l'animation. Puis ce film-là, ils ont utilisé tout. Il y a du crayon de bois, il y a du découpage dans des revues. C'est unique, c'est une expérience qui est sur Netflix. Je vous la souhaite sincèrement. On a fait notre top 10 des meilleurs films. Ben en fait, notre top des meilleurs films de la décennie passée, de 2010 à 2020. Et Boy and the World a fait mon top 3 avec le film duquel je vais te parler maintenant. Je ne sais pas si tu sais, mais il y a un concept bien simple qui régnait sur la BD dans les années 40. Et ça s'appelait le héros parfait. C'est à cette époque-là qu'il y a des affaires comme Mandrake, Superman, Batman, Dick Tracy. C'est des héros qui avaient tout le temps raison. On n'était pas capable d'imaginer, mettons, Batman relaxé un après-midi ou Superman avoir tort. C'est des affaires qui n'existaient pas dans la psyché du super-héros. Et là, il est arrivé un de mes héros personnels préférés, un gars qui s'appelle Charles Schulz. En 1950, il a créé ce qui s'avère, je te dirais, selon ma compréhension du médium, la dernière grande mutation de la BD moderne. C'est Charles Schulz, ce qu'il a fait, c'est que la psychanalyse montait tranquillement. Et à chacun de ces personnages, il a prêté une maladie psychologique qui est devenue le trait principal du personnage, ce qui permet ensuite d'imaginer facilement, mettons, Linus comme 20 ans plus tard, parce que Linus, c'est pas juste un héros qui est parfait. Linus, il est schizophrène, Linus, parce que lui, il attend tout le temps la grande citrouille.
Il est insécure avec sa couverte.
Sa couverte,
c'est son sens de sécurité.
Voilà. Si je t'apprends, mettons, que Charlie Brown, c'est le concept de... En fait, c'est le déprécié. C'est, maniaco-dépressif. Là, tu sais, c'est le complexe d'infériorité. Voilà, oui, c'est exactement la formulation que je cherchais.
Il voit juste Snoopy, un côté sombre des choses, Charlie Brown, puis il se voit tout le temps pire qu'il est. C'est le pire loser. Exactement. Tu penses qu'il va se suicider d'une page à l'autre.
À quoi ça donne? Je vais me faire péter à gueule. Anyway, c'est le héros qui se plante tout le temps. Voilà. Sinon, si je te dis Snoopy, c'est le complexe de supériorité. C'est le chien. Tu sais, tu viens de comprendre pourquoi il dormait sur sa niche maintenant. Schroeder, c'est le pianiste. Lui, c'est un mégalomane. Lui, il a un tout petit piano, puis il fait une symphonie avec ça, puis il tripe sur Beethoven, qui est un petit peu dans le même genre de mégalomane, de grandiose. Tous les personnages de la série... Écoute, Charles Schulz a fait jouer un noir au baseball avec les Blancs avant les Ligues majeures, avant n'importe qui d'autre aux States. Charles Schulz a fait aussi s'embrasser des madames avant bien des affaires, parce que, tu sais, je veux dire, la petite fille qui appelle l'autre monsieur, puis l'autre qui appelle...
Patty puis merci.
C'est ça, tu sais, je t'apprends rien si je te dis que c'est des lesbiennes. Et je suis en train aussi de t'expliquer pourquoi il y en a un qui était tout le temps sale. C'est simplement que c'était sa maladie à lui, sa manière d'approcher les choses. Fait que ce qui est arrivé, là, il n'y a pas un grand préambule pour rien, parce que Charles Schulz a fait plusieurs centaines de BD de 1950 à 2000, 50 ans, à juste dessiner ce personnage-là. Une par jour, il y en avait une plus longue les fins de semaine. L'œuvre du monsieur est colossale. Il est décédé au mois de mars 2000, si je me souviens bien. C'était pas mal connu que tu sais, c'était la fin. Il a continué à dessiner pas mal jusqu'au bout. Et sa dernière œuvre, en fait, parce que lui, il a jamais vraiment supervisé les films de Charlie Brown, les BD, les affaires qu'on a vues, le spécial de Noël et tout. C'était des adaptations un petit peu plus libres, blabla. Faudrait aller fouiller, je suis pas super au courant, mais ce que je sais, c'est que quand Charles Schulz est mort, il a dit « Je ne veux plus que des gens continuent mon œuvre. » On finit ça comme ça. Sa dernière BD, d'ailleurs, c'est Snoopy qui nous dit adieu puis merci. Mais sur son lit de mort, en 2000, avec son premier fils, il a décrit le film qu'il aurait aimé, qui termine la saga de Peanuts. Et en 2015, il a été fait. Et c'est grandiose. Voilà. J'ai encore les émotions qui montent, mais c'est sérieux, ce film-là. C'est moi, j'ai le plus grand respect pour l'homme et l'œuvre. Et c'est les parenthèses se ferment sur des personnages qu'on a vus pendant 50 ans. Je vous le souhaite, voilà. Et on termine avec quelque chose qui s'appelle Commando. Commando, c'est un film qu'on a...
On change de registre.
Famille.
On passe de Peanuts à pas de chose. Le génie à Commando.
Ah oui. Là, mettons, tous les films que je vous ai parlé, c'était du plus 8, ou plus 9 même, tu sais, dans ma compréhension des choses.
Il se trouve où,
Advertising and the End of the World, The Price We Pay, Boy and the World, et le film des Peanuts, selon moi, c'est des affaires qu'on devrait montrer au secondaire aux gens, blablabla, des chefs d'œuvre. On s'en va dans le moins neuf maintenant. Commando, la majorité des bons souvenirs que le monde a associés à ça, on a réalisé à un moment donné que c'était à cause de la trame sonore, parce que la trame sonore est super bonne. Les images sont telles quelles, mais ce qui est sûr, c'est que Matrix, John Matrix là-dedans, il a le droit d'aller tuer 90 personnes puis de rester gentil. Il y a des one-liners avant que ça soit à mode. C'est un des films les plus conséquents des années 80, selon moi. Ça l'a vraiment comme glorifié, comme cicatrisé l'espèce d'archétype d'héros d'action qui était encore à définir après Rambo 2, je te dirais. Il était quand même assez casé, là, mais il était encore à définir.
Ça a comme défini le genre, là, tu sais. Puis moi, c'est ça qui m'a marqué, qui me marque le plus.
Ah oui,
les vieux films de Schwarzenegger, c'est catchphrase. À toutes les fois qu'il va tuer quelqu'un, il y a toute une petite phrase avant ridicule. Des fois drôle, mais plus souvent qu'autrement, on rit de la phrase plutôt que, tu sais, on rit du gars qui dit la phrase plus que de la phrase.
Nous, en fait.
Attends un petit peu, Tommy.
Oui.
Raconter quelque chose avant que tu parles plus du film, OK? OK. Sais-tu quand j'ai vu ce film-là, moi, puis pourquoi? Parce qu'il y avait eu le grand débrouillage de Super Écran.
Oh, yeah, hein?
Fait que j'habite à... Ben là, pour ceux qui ne sauraient pas déjà, Tommy, c'est mon cousin Germain, là. Nos pères sont frères et même jumeaux d'anniversaire. Je viens de déménager. Tu sais, moi, là, les chaînes câblées, payantes, toutes, là, je veux dire, la grosse manette à piton, là, tac, 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 tu changes la roulette, t'as les postes d'en haut, tout ça, je connaissais rien là-dedans. Je pars. Fait que là, on se ramasse avec le grand débrouillage. Mon père, je sais pas où c'est qu'il était, mais je sais qu'il était pas là pour le travail. Fait que moi et ma mère, fait que tu sais, j'ai 14, 15 ans. Et j'ai vu Commando à Super Écran. Et écoute, je me remets dans ma vie de ce petit gars de cette époque-là, là, pas le gars que je suis aujourd'hui. Puis écoute, Tommy, corrige-moi si je me trompe, mais tu sais, le film du genre Commando doit en... Mainstream doit en être un des premiers, là.
Ben, oui. Ben, comme je disais avant, l'archétype de héros musclé, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Je dirais que ce qui l'a fait évoluer beaucoup, c'est la sauce. Hein, toi, en tant que fan de lutte, je pense que tu es au courant de quoi je parle. Et dans les années 80, ça a comme commencé à exploser. Et le premier de archétype de ça, c'est vraiment Sylvester Stallone. C'est Rambo. Le premier, c'est ça. Je te dirais beaucoup moins dans le 1. À partir du 2, là, il se dévait et là, on voit que tu sais, il a fait de la sauce en masse.
Puis ça devient ridicule. Aussi, l'histoire de Rambo devient plus ridicule à mesure que les films avancent.
Le dernier était rendu
au 3, là, où il soigne sa blessure en mettant de la poudre à canon puis il se met le feu après le chest.
Ça, Sylvester Stallone, il a tout le temps aimé ça, mettre des... comment je pourrais dire, comme mettons parce que l'affaire, il a eu
souffrir
pour vrai après lui, là. Il est pas dedans lui, mais tu sais, ça y a fait mal pour vrai. Là.
Mais lui, comme, il aime mettre la souffrance à l'écran.
Dans Rambo 1, il se pitch en bas de la falaise à un moment donné, et pour atterrir, il saute dans des sapins parce que ça va amortir sa chute. Et il a checké le résultat de la première chute et il a dit, on va en refaire une. Fait que, tu sais, ce qu'on voit puis qu'on dit, ça n'a pas de crise de bon sens que ça soit pitché, il a décidé de la refaire parce qu'il voulait que ça soit mieux. Fait que c'est, tu sais, mettons, quand on dit que Jackie Chan, c'est un cascadeur qui n'a pas de bon sens au cinéma, Sylvester Stallone, and then some. Tu sais, peut-être moins que Jackie, là, on s'entend, là, mais...
Il aime ça souffrir à l'écran, puis ses héros ils se relèvent toujours de quelque chose. Ils font tout le temps une croix avant de se relever. Tu sais, c'est l'adversité, son thème, on dirait.
Un autre aussi aspect, parce que je veux pas trop rester en dehors de Commando longtemps, oui, oui. Là, c'est ton show. Mais un autre aspect important aussi, c'est, je sais pas si tu te rappelles, Rocky 1, ça l'a mis sa map en esti, ça, et il a fait l'entraînement de Rocky, tu sais, il filmait des bouts, et Et quand il boit des œufs au début, c'est pas... C'est vraiment comme pour rassurer la légende. Il boit pour vrai, là. Il casse des œufs, il se lève, il est 5 heures du matin pour vrai, il casse les œufs pour vrai, puis tu sais, tout pour vrai. Puis ça, c'est une manière de rajouter au mythe, c'est sûr et certain. Tout comme Commando au début, quand Arnold Schwarzenegger se transporte le gros bio, tout le monde va se souvenir pour toujours de ce montage de mise en valeur-là de Arnold avec le gros bio, la chaîne ça dans l'autre main. Tu sais, c'était un homme dans les années 80. Et d'ailleurs, c'est tellement un homme dans ce film-là. Nous, on s'amuse souvent à juste imaginer les fantômes créés par l'hécatombe qui est allé faire là. Tu sais, il y a des bouts dans ce film-là que tu vois Commando qui marche subtil dans les bosquets et t'entends des bruits de mitraillette en background. Mais dans qui il tire?
Il s'entraîne?
c'est un enrobage surviolent d'espèces de testostérone gratuite. C'est un moins neuf, selon moi. Je l'ai dit live, là, on frotte tout le temps autour. Tu sais, parce que des moins neuf, j'en ai 10, 12, 30 max là, sur les 15 000 films que j'ai vus dans ma vie. Fait que faut tasser ça tranquille. Là, fait que, mais oui, ce soir, live... au crachoir, je suis très content de donner moins 9 finalement à Commando. Et d'ailleurs, pour vous en apprendre un petit peu plus sur l'Underground, dans le film, le plan du méchant, c'est de kidnapper la fille de Commando, de tuer toutes ses collègues pour qu'il soit le meilleur des meilleurs, le restant des meilleurs de l'unité spéciale des meilleurs, et demander à ce gars-là d'aller tuer le président du Valverde pour faire un coup militaire. Ça se passe au Valverde à la fin, quand il y a une hécatombe de soldats et tout. Et dans Die Hard, qui est aussi écrit par Brian De Souza, le Hans, le méchant terroriste, parle au téléphone puis il dit à un moment donné, je veux qu'on libère des membres du FLQ, du Front de libération du Québec. Ouais. Ouais, il demande des affaires de même. Puis à un moment donné, il demande, j'aimerais ça aussi qu'on libère le Front de libération du Valverde. Parce que la c'est un pays fictif, vraiment comme instable politiquement, qui revient souvent dans les films scénarisés.
C'est comme la suite d'avis dans Tintin. Là. C'est le pays où on peut mettre n'importe quel complot, des putschs, tout ce qu'on veut. Puis on peut pas
très bon exemple. La suite d'avis de Tintin, là, ouais. Si c'était pas Christmas en plat Tintin, je t'aurais félicité.
Tommy, j'ai une question. Corrige-moi si je me trompe, mais le fameux... Bennett dans Commando.
Oui.
C'est bien le même gars dont je ne connais pas le nom du personnage.
C'est Vernon Wells.
Non, mais dans Mad Max.
Oui, c'est Vernon Wells. C'est lui qui fait le sidekick du boss de la fin dans Mad Max 2. Son autre grand rôle aussi, c'est sûr et certain que c'est le méchant dans Robocop 2.
Un peu, Frank, pour ceux qui ont entendu Mad Max 2, là, on parle pas de celui avec Tina Turner, OK?
Non, non, ça, c'est pour vous autres.
C'est ça. Pour vous autres, Mad Max 2, là, c'est le premier, OK? Parce qu'il y en a plein qui n'ont pas vu le premier.
Chris, pourtant, c'est excellent. Je l'ai revu dernièrement.
De la gang, vraiment.
Ben, peut-être le 2 est solide aussi. Même le 3, ça reste très bon. J'ai lu dernièrement, on se les a réécoutés, et Mad Max 3, en fait, ce qui est arrivé, c'est que pendant la recherche de location, tu sais, le tournage, il y a un avion qui s'est écrasé, et là-dedans, il y avait le producteur exécutif de George Miller, qui est le réalisateur et l'idéaste des Mad Max. Et là, il est mort, et ça a été... Ça n'a pas aidé, mettons, l'ambiance sur le tournage et le reste. George Miller a fait le film à reculons, ça y tentait pas trop, blablabla. Et sinon, peut-être pour finir là-dessus, ma chronique, savez-vous c'est quel le film le plus populaire de George Miller, qui a fait d'ailleurs les Mad Max, hein, l'archétype post-apocalyptique qui est appliqué un petit peu partout? Y a-t-il quelqu'un qui a une tentative de réponse?
Ouais, moi je la connais.
Moi, je ne sais pas.
La réponse,
c'est Waterworld.
Frank, je ne sais pas. Non, c'est Babe, un cochon dans la ville, qui est aussi une idée de George Miller. Et ce film-là a eu des retombées vraiment néfastes sur plusieurs écosystèmes citadins. Parce que dans le tournage du film, ils ont été obligés d'utiliser quelque chose comme 50-80 cochons différents. Parce que ça grandit crissement vite, un cochon. Mais là, tout le monde voulait avoir des cochons cute chez eux. eux. Fait que le monde se sont achetés des cochons pour leur appartement. Mais là, deux semaines après, il n'y a plus rien à faire avec ça. Il y a eu des retombées socio-économiques qu'on n'a pas vu venir de Pape, le cochon.
Fait que, ben, sûrement que les 101 dalmatiens ont sûrement fait faire fortune à des...
Les 101 dalmatiens,
en fait, ont
cette race. Ouais, toutes les personnes qui connaissent les chiens disent « pogne pas de dalmatien à cause du film ».
J'avais une dernière question pointue, ça se peut que tu n'aies pas la réponse. Là, mais dans Commando, quand il pitch sur la patente électrique là, puis que ça leur donne du power, c'est quoi, d'après toi, leur raisonnement? Ou ben, comment est-ce qu'ils essayent de nous faire avaler ça, mettons? Comment est-ce qu'ils essayent de nous de rationaliser ça, là?
Ben, tu sais, dans la vie, des fois, ce que t'as besoin, c'est des archétypes forts pour être capable de faire passer des idées. Puis, quand tu rends un méchant surhumain, tu rends aussi la personne qui va le battre surhumaine. Ah. Je pense que, tu sais, tantôt, on parlait de testostérone, là. Je pense que c'est ça, la réponse.
C'était pour le rendre plus dangereux puis plus dur à vaincre.
Et c'est ça, voilà. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. À vaincre avec crissement du péril, on peut fourrer tout le monde. en tout cas, triomphe avec beaucoup de gloire.
Ah, Monsieur Olympia sera le confirmé.
Et voilà.
C'est excellent. Il va en encore.
Hey, Tommy, avant qu'on te laisse aller, là, ben, je sais que tu es un spécialiste de présenter tes projets rapidement. Fait que sans tomber dans la cheap plug, parle-nous donc des choses que tu fais, du contenu que tu crées.
C'est ainsi, on stream beaucoup. Ça nous permet de faire 70% chaque lundi sur Douteux TV. Cherchez Douteux TV 1 sur Twitch. Sinon, il y a Terrain Basique qui continue aussi. Je suis pas mal ça. Là, TommyGodette.com, puis TommyGodette Douteux Log sur Facebook. Puis sinon, restez loin de Facebook si vous avez une poussée d'émotion. Merci.
Excellent. Merci, Tommy. Hey, j'aurais pu t'écouter parler de Peanuts pendant des heures parce que jamais qu'on... Je savais pas que... Je savais que chaque personnage avait des caractéristiques, ça, mais... T'avais vraiment des désordres psychologiques précis. Puis, Colin, c'est vraiment cool. Je vais aller creuser ça à cause de toi.
Ça va bien aller. Puis d'ailleurs, après ça, ça a été repris par toutes. Là. Je veux dire, Spider-Man est une retombée directe de cette nouveauté dans la BD-là. Parce que Spider-Man, au début, c'était un adolescent tragique qui a une job, ça donne que son boss, c'est la seule personne qui haït, ce qui lui permet d'avoir une job. Puis tu sais, là, il y avait le fait qu'il faut pas qu'il sache. Tu sais, dans le sens, il faut pas, mettons, que les gens sachent que Peter Parker, c'est Spider-Man, parce que ça mettrait sa tante May dans la merde. Tu sais, c'est ce genre d'affaire-là. Peut-être qu'elle ne laisserait plus sortir pour aller jouer avec les amis aussi. Il y avait comme plusieurs à côté. Puis si tu permets, moi je présente la toune que j'ai choisie pour faire le lien.
Oui, vas-y.
Parce que quand ils ont fait les dessins animés de Charlie Brown, tu sais, quand même pas mal de nouveautés à créer. Et ils ont fait parler les adultes avec des trombones parce qu'il n'y avait pas le choix de faire des interactions. Je ne sais pas si tu te rappelles. Voilà. Et ça, c'est une idée que Vince Guaraldi a eue. Et Vince Guaraldi, c'est celui qui a fait les trames sonores et le tune theme de Peanuts.
C'est lui qui fait parler Mademoiselle Hottemore puis les parents.
C'est le tronc. Ben, je ne sais pas si c'est lui directement.
Non, mais je dis, c'est lui qui a eu l'idée de changer les voix. Génial.
Et je vous propose, parce que tout le monde connaît le thème de Charlie Brown, la tune thème, c'est une des meilleures tunes instrumentales de la vie. J'adore le jazz, voilà, c'est dit. Mais là, je vous propose, je pense que c'est ma préférée, c'est Red Baron de Vince Guaraldi Trio.
On est rendu au moment préféré de l'émission de Martin, parce que c'est le moment où il lit le titre du mashup pendant que j'en parle. Mais avant, la poutine!
Hey, écoute, la poutine, j'aimerais ça commencer, Frank, par dire un gros merci à nos deux nouveaux chroniqueurs. N'allez pas penser non plus que Jérémy Rivard n'en fait plus partie. C'est simplement que Jérémy a ses projets aussi. Des fois, on a des conflits d'horaires et tout ça. Mais je veux dire un gros merci à Tommy Godette qui nous a fait, on a parlé un peu à micro fermé tantôt, qui nous a fait vivre un moment assez particulier que je trouve très rare dans le monde du podcasting ou pour les puristes de la balado-diffusion. Mordez-moi le nœud. Mais,
Comme je t'ai dit, Ordon, tantôt, moi, il n'y a personne qui m'a jamais parlé de Charles Schulz puis de Pinos comme ça, puis tu m'as répondu, il n'y a personne qui parle comme Tommy de rien. Puis c'est vrai. Là.
Et voilà. Fait que, habituez-vous à la présence de Tommy. Tommy a un paquet de projets, il en a parlé, mais je trouve que c'est un des côtés les plus méconnus de Tommy que représente le fait de parler de quoi que ce soit de culturel. Et Dieu sait que nous vivons présentement dans une époque où le culturel est important parce que ça nous divertit, parce que ça, on a beau parler du ménage du dimanche, mais même moi, m'emmener, je suis tanné de les voir. Là. Mais tu sais, de vous faire des suggestions de choses à regarder pour des bonnes ou mauvaises raisons qui sont toujours bonnes, ben Tommy, c'est vraiment le gars tout indiqué. Fait qu'un gros merci à Tommy, puis je remercie également... Bien sûr, notre cyber concierge exécutif, Simon Michaud, qui a décidé de se prêter au jeu, justement, de nous trouver des théories conspirationnistes. On est d'accord, c'est pas trop dur à trouver de ce temps-là, mais c'est justement, on l'a mandaté peut-être pour en trouver qui sont un petit peu plus marginales ou qui sont moins présentes sur les médias sociaux pour montrer l'étendue de la débilité de tout ça. Fait que,
dans le cadre du ménage du dimanche, cette capsule-là, ça s'imposait.
Ben, je pense que oui, c'est ça, bien humblement. Puis
comme le ménage s'impose en temps de pandémie où tous les plus fous de Facebook s'en donnent à cœur joie.
Si tu me permets d'ailleurs, Frank, là-dessus, tu sais, je tiens à dire une chose, là, c'est que je veux le dire publiquement, c'est-à-dire dans le crachoir, parce que je l'ai fait sur mon mur aussi, mais moi, je respecte, vous allez dire, ben oui, tu fais des jokes tout le temps, là, oui, mais je respecte le droit au monde de trouver ça fatigant, de pas être d'accord, de pas vouloir en faire partie, il y a pas de problème. Si vous me flushez ou si vous ne likez pas la page Ménage du dimanche, grand bien vous en fasse, il y a absolument aucun problème. C'est juste que nous autres, moi, plus personnellement, là, je parlerai pas pour Frank, mais je considère que comme citoyen, on a une responsabilité. Tu sais, je vais te dire la même affaire que j'ai dit sur un post, OK, Frank, c'est que regarde, pas de problème, moi, ce que Marcel Leboeuf me dise qu'il chie mieux depuis qu'il a un collier du noisetier. Pas de trouble avec ça. J'ai pas de problème non plus à ce qu'une vedette me dise que son chum bande plus de prendre la vie de vélo non plus. J'ai aucun problème avec ça. Ce qui me dérange, c'est que là, on prend des vedettes de TVA qui émettent des opinions sur des sujets dont une des conséquences, c'est qu'il y a des décès réels. Là. Moi, je me fie pas sur ce que je vois sur Facebook pour vous dire que c'est vrai. Je connais des gens qui sont morts de la COVID. Là. OK? Fait que c'est pas parce qu'ils se sont fait micro-pucer une tabarnak de chip de 5G. Là. OK? Fait que ça, moi, j'ai un gros problème avec ça. Fait que je continue de flusher du monde dans mes réseaux sociaux anonymement parce que je connais pas leurs circonstances de vie. Mais je vous le dis tout de suite, là, les personnalités publiques, les gens qui ont des tribunes, je vous traque. Là. Puis si vous dites des conneries, je vais être là. Puis le ménage du dimanche va être là. Puis on vous laissera pas faire. Là. Vous autres, vous pensez que vous ne laissez pas le gouvernement faire, puis Bill Gates faire, puis George Soros faire, puis tout le kit. Là. Ben moi, je vous laisserai pas faire, puis le ménage du dimanche non plus. Fait que ça va faire.
Le statut de vedette, ça vous donnera pas d'immunité. Là. On vous laissera pas abrutir la société comme ça, impunément. Là, puis c'est, quand tu parlais, c'est comme notre devoir de citoyen. C'est notre devoir de membre de l'humanité de ramer dans le sens pour que le bateau avance. Puis de dénoncer ceux qui rament dans le mauvais sens.
Voilà. Fait que là-dessus, on va tomber pour vrai parce que là, je suis en train de devenir moi aussi émotif, Frank. on va, bien sûr, si vous êtes en train de nous écouter, peu importe la plateforme, parce que étant donné qu'on a apporté quelques changements à la formule, ben on a pris un petit peu de retard dans notre modèle, si on veut, de diffusion. Fait que bien sûr que vous êtes en train de nous écouter en podcast, alors on vous en remercie. Sachez que si vous voulez répandre la bonne nouvelle, nous sommes disponibles sur toutes les bonnes plateformes, c'est-à-dire Apple Podcasts, Google Play, Spotify, tout bon podcatcher Android. Et sachez aussi que Si vous n'avez pas eu le temps de nous télécharger ou peu importe à un moment donné, puis que vous êtes dans l'auto, puis que vous dites, me semble, j'écouterais du crachoir, ben nous sommes exclusivement disponibles sur radioh2o.ca tous les jeudis à 20h. Et l'épisode, lui, est téléchargeable le lendemain à midi. Sur ce, Frank, j'ai vraiment envie. Là, attends un petit peu, là, parce que là, j'ai fait...
Ah, ben, t'as peu, juste dire au monde, allez sur Facebook, sur la page Ménage du dimanche, vous allez comprendre vite ce qu'on fait, puis parce qu'on en a parlé, mais je veux inviter le monde personnellement à aller nous aider à combattre l'abrutissement puis la stupidité sur les réseaux sociaux.
C'est notre petite contribution. Et si vous n'êtes pas d'accord avec, ben flushez nous, il n'y a aucun problème, ça fait partie de la démarche.
C'est ça, mettez-nous dans votre ménage du samedi, c'est tout.
Ouais, wow, ben c'est ça. Mais tu sais, vous pourriez être blood pareil. Tu sais, mettez un hashtag pareil.
Ouais, flushez-nous, mais mettez ménage du dimanche en hashtag. On va se sentir bien flushé au moins.
Fait que là, Frank, sur ces bons mots, je veux pas dire les artistes vont te laisser faire évidemment ton setup, mais juste le titre me fait saliver et ça s'intitule « I got soul boots made for walking
». C'est un mélange de « These boots are made for walking » de Nancy Sinatra avec Ski Whiff qui fait des genres de reprises, qui rajoute du beat là-dessus. C'est vraiment excellent. Et la tune s'appelle « I got soul ». Je pense que c'est... En tout cas, c'est un mélange de ces trois-là avec Sean Lee, que je connais pas. Mais écoute, je suis tombé là-dessus, puis j'ai trouvé ça excellent, puis j'ai pensé que ça se qualifiait pour rentrer dans vos oreilles. Fait que la voici. Salut.
All over you.
de la famille H2O Web Media.